Bonsoir, Abdourahmane Dia au micro et bienvenue dans ce nouveau numéro d'À votre avis pour parler des dépenses publiques en Afrique et du nombre pléthorique de membres du gouvernement. Le prétexte, vous le savez, c'est cette polémique au Ghana après la publication de la liste du nouveau gouvernement qui comprend 20 ministres régionaux, 40 ministres et 50 vice-ministres, soit un total de 110 portefeuilles ministériels pour un pays pourtant cité en exemple en matière d'avancée démocratique. Mais le phénomène des équipes gouvernementales pléthoriques n'est pas nouveau en Afrique. Qu'est-ce qu'il explique et qu'est-ce qu'il faut faire pour forcer les gouvernements à éviter ce que beaucoup considèrent comme du gaspillage de l'argent du contribuable? Alors appelez-nous au 001 202 619 31 40. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous avons depuis Yaoundé Madame Viviane Biolé. Madame Viviane Biolé, bonsoir. Vous êtes vous êtes la directrice générale adjointe de l'Institut supérieur de management public à Yaoundé. Donc vous restez avec nous tout au long de cette émission et nous aurons également tous les auditeurs qui vont nous appeler depuis le continent ou ailleurs. Nous avons déjà un auditeur en ligne de Conakry, mais d'abord Madame Viviane Biolé. Est-ce que vous êtes surprise de cette polémique au Ghana? Le Ghana est quand même un pays cité en exemple.
Oui, quand même surprise, hein, déjà, du fait de leur positionnement, parce que ces derniers temps, c'est quand même un pays qui est reconnu, ou tout au moins à qui on crédite, fort crédit, on crédite justement cette avancée vers la démocratie, cette avancée également vers, on pourrait dire, à une sorte de rationalité. Quand on parle de démocratie, c'est qu'on respecte un minimum de normes. Et si le nombre de 110 ministres est considéré comme étant exagéré, c'est parce que lorsqu'on observe ce qui se passe ici et là, c'est peut-être la première fois qu'on entend un nombre aussi fort. Parce que je ne me souviens pas, je peux me tromper, que j'ai déjà entendu qu'un pays dispose de plus de 100 ministres. Je pense que c'est quand même un chiffre qui choque un peu. Et par rapport à cela, on peut poser la question de savoir quelle est la taille optimale. Si on n'a pas de réponse exacte à cette question, on pourrait quand même dire que 110 minutes, c'est quand même un peu trop.
J'ai l'impression qu'il y a du monde autour de vous. Nous allons revenir vers vous. Le temps d'aller à Conakry, retrouver Diallo Tierno Oumar. Diallo, bonsoir.
Alors oui, bonsoir la VOA et bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs.
Alors vous dites qu'il n'y a pas raison, il n'y a pas lieu de s'indigner. Pourquoi?
Franchement, moi j'arrive pas à comprendre tant d'indignations par rapport à la nomination de ces ministres. Vous savez, dans les départements ministériels, c'est mieux d'envoyer un ministre délégué, un ministre d'État pour bien gérer au lieu de réduire le poste ministériel et mettre quelqu'un, un militant, un compétent ou un partisan qui n'a pas la hauteur de gérer. Vous voyez, si on envoie des cadres bien formés qui savent bien faire et satisfaire les besoins de la population, moi je vois pas, c'est normal, c'est très très normal à mon avis. Vous voyez, si trois cadres intellectuels se retrouvent à la tête d'un département, et tant d'autres ministres conseillers et d'autres, ça va faire bouger les lignes, aider le gouvernement d'aller d'avant et le président qui est en exercice de bien faire ses promesses pendant la campagne présidentielle. Vous savez, Nana Akufo-Addo, c'est un opposant historique. Il a ses qualités. Vous savez, il a beaucoup dénoncé pendant les 15 dernières années au Ghana de tout le mal gouvernance du pays. Vous voyez, nous félicitons son arrivée à la tête. C'est une bonne action de le faire. Et puis, c'est un très bon exemple, quoi. De réduire aussi les salaires de certains fonctionnaires et les ministres, c'est très important aussi. Il ne faut pas qu'ils exagèrent trop avec des équipements. Il ne faut pas que aussi les biens du peuple soit gaspillé inutilement.
Justement, si vous voulez que les ressources publiques soient préservées, je vois mal comment est-ce que vous pouvez défendre 110 ministres dans un seul gouvernement, même s'ils sont compétents.
Oui, vous savez, oui, nous savons qu'il y a des cadres parmi eux qui sont compétents, mais...
D'accord, mais on a compris votre point de vue. Nous revenons à Yaoundé avec Madame Viviane Biolay. Alors, cet auditeur de Conakry ne semble pas très choqué. Est-ce qu'il y a, disons, une mentalité qui ferait que bon, le poste ministériel, en fait, sont quelque chose de tellement important dans notre société que bon, tout le monde chercherait peut-être à bénéficier de ce titre?
Je pense que vous avez tout à fait raison, c'est peut-être un problème culturel. Lorsque l'intervenant de Conakry parle, il insiste sur les récompenses. Est-ce que le poste de ministre est le seul poste qui pourrait être considéré comme le poste à récompense? Je ne pense pas. Par contre, son intervention me pousse peut-être à poser la question du modèle de gouvernance du Ghana. Peut-être que le Ghana innove là, avec un nouveau modèle de gouvernance qu'il faut peut-être questionner. Si on pose la question de savoir à quoi sert un ministre, quelle est sa valeur économique, peut-être on pourrait lui pardonner d'avoir justement les 110 ministres, mais sinon, si c'est un modèle, le modèle que nous avons coutume de voir ici et là, on pourrait quand même s'inquiéter de ce chiffre qui est quand même un peu élevé.
D'accord, nous allons justement au Cameroun retrouver un auditeur, Mamadou Mota. Mamadou, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, vous dites qu'au Cameroun, oui, c'est la même folie de répartition du gâteau national. Vous l'appelez un gâteau national, pourquoi?
Oui, mais on a l'impression justement que chaque fois qu'un président arrive ou lorsqu'il se maintient au pouvoir pendant de longues années, on assiste toujours à ce sous-soutenement du gouvernement où il faut créer des postes ministériels, même lorsque... leur cahier de charge chevauche ceux d'autres ministères, juste pour faire plaisir aux amis. Mais il faut le dire, 120 ministres pour un pays africain, ou même 30, 40, lorsqu'on sait que le secteur d'activité primordial pour impulser le développement de l'Afrique ne peuvent pas dépasser 15 ou 20. Les secteurs clés sont généralement abandonnés pour créer des ministères fantaisistes et faire simplement du plaisir à des amis ou dans la logique d'avoir une emprise nationale du parti le président de la République. Et ça, mais ça n'aide pas à réaliser les États. Ça n'aide pas. Vous savez, on crée le ministère de la forêt, on crée le ministère de la faune, on crée le ministère des poissons. Finalement, on se retrouve avec des centaines de ministères qui sont en réalité des trous qui consomment énormément du budget. On le sait. C'est dans tous nos États où c'est le président de la République, des régimes très présidentialistes, l'essentiel du budget reste dans les capitales. Alors, on ne voit vraiment pas l'impact de tous ces ministères dans les zones rurales, qui sont des zones en réalité qui regorgent beaucoup de personnes dans les localités.
D'accord. Merci beaucoup, Mamadou Mota, d'avoir appelé du Cameroun. On va tout de suite à Djibouti retrouver Omar Boulalé Nassa. Omar, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et vous dites que votre pays est l'exemple parfait quand il s'agit de nommer des ministres sur des bases ethniques ou de clientélisme. Expliquez-nous
oui,
un peu.
Tout à fait. Oui, je suis prêt. Oui, tout à fait, c'est ça. Parce que c'est un exemple partout, comme là en Afrique, en majorité. Hein. Nous avons des gens qui sont souvent élus ou désignés par ethnie. L'ethnicité est très importante, le tribalisme est très important. C'est ça. Et le favoritisme et tout ce qui est népotisme, clientélisme, tout ça, c'est des éléments qui se regroupent et qui donnent un point important à la politique en Afrique. Et ça se trouve aussi à Djibouti aussi, on y trouve, oui. Mais il n'y a pas une base méritocratique qui est importante.
Donc pour vous, ces nominations ne sont pas faites sur des bases, disons, compétences.
Méritocratie, oui. Il n'y a pas de méritocratie, mais c'est le clientélisme qui est important et l'ethnicité. La personne est exclusive de cette ethnie, il est de cette région-là. Voilà, peut-être demain, s'il y a un problème dans son ethnie ou un problème dans cette région-là, il va régler, il sera de mon côté. Donc, je donne la place. Voilà ce qui est important. Mais il n'y a pas une méritocratie ou quelqu'un qui peut faire quelque chose pour le peuple. En Afrique, c'est très rare de trouver, et voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Omar.
C'est moi qui vous remercie.
Oui, avant d'aller à Yamoussoukro, on retrouve notre invitée Viviane Biolé. Alors, madame, si on prend l'exemple d'un pays comme le Sénégal, l'actuel président Macky Sall avait promis pendant la campagne électorale de 2012 de ne pas nommer un gouvernement avec plus de 25 ministres. Aujourd'hui, on se retrouve avec 37 ministres, beaucoup de ministres délégués, oui, des ministres conseillers, et qui ont rang de ministre en fait. Est-ce que pour la classe politique, pour les politiciens, ça devient en fait un problème, une promesse difficile à tenir, la réduction du nombre de ministres en Afrique à cause des alliances et disons des réalités ethniques?
Alors, vous posez la question de savoir si c'est difficile, mais ça dépend de l'engagement de chaque président. Moi, vous connaissez certainement le Rwanda. Au Rwanda, nous avons 24, nous avons 24 ministres. C'est un choix. Je pense qu'il y a un élément culturel ou un mimétisme qui s'observe. J'espère qu'il est simplement conjoncturel, parce que s'il perdure, il faut quand même dire que ça va poser de plus en plus de problèmes dans cet environnement économique qui est de plus en plus difficile. Parce que si par le passé on pouvait se permettre ce silence et cette discrétion de la population, maintenant il n'est plus possible de le supporter parce que la situation est devenue difficile. Je crois qu'il y a une combinaison de plusieurs facteurs qu'il faut mettre en place pour éviter justement des difficultés dans nos différents pays. C'est vrai. Lorsqu'on est nommé, on a peut-être beaucoup de récompenses à offrir à ceux qui nous ont accompagnés. Il y a des équilibres régionaux, ethniques à mettre en place. Mais ça dépend aussi du modèle économique qu'on décide de mettre en place. Parce qu'on observe souvent une incohérence dans le discours. Autant vous allez entendre dire que oui, je veux passer de ministre, il faut resserrer la ceinture. Autant au niveau de l'État, il n'y a pas cette rigueur. Je pense que c'est davantage cette incohérence qui pose problème.
Et il y a peut-être cette peur de perdre certains soutiens importants.
Et puis, il y a le même problème. Lorsqu'on parle de poste de ministre, vous convenez avec moi qu'il y a des gens qui ont rang de ministre.
Absolument.
Donc, on se pose la question de savoir à quoi cela renvoie au plan managérial, parce que lorsque vous allez rendre ministre, vous n'avez pas de portefeuille. Dans certains cas, vous êtes sous un ministre, parfois vous avez deux secrétaires d'État dans un ministre. La question financière et économique se pose avec évidence. Et on comprend très bien que c'est essentiellement pour des logiques sociales. On peut dire que ce n'est pas des rationalités, vraiment des rationalités économiques. Et la grogne de la population, c'est justement de dire chaque fois qu'il faut faire un effort, c'est toujours à la population qu'on demande de faire des efforts, et peut-être pas aux politiciens ou alors à tous ceux qui sont proches des politiciens. Je crois qu'il y a un véritable problème de gouvernance qui est questionné, qui est mis sur la table. Et il y a un renouvellement également que la population exige, parce que elle ne semble plus vouloir accepter ou rester silencieuse face à ces différents phénomènes. Et de ce point de vue, ces politiciens devraient également prêter une oreille à ces rejets.
D'accord. On va tout de suite à Yamoussoukro retrouver Youssouf Ouédraogo. Youssouf, bonsoir.
Oui, bonsoir à la radio, aux invités, à tous les auditeurs et auditrices de VOA Afrique.
Alors vous dites que malgré cette polémique, le Ghana reste toujours un exemple, sur le plan démocratique.
Oui, écoutez, moi j'ai dit qu'au-delà du fait que le nombre de ministres du tout premier gouvernement du nouveau président Nana Akufo-Addo paraît pléthorique et pharaonique, à la fois choquant, alors moi je pense qu'en vérité, cette exception n'enlève absolument rien de l'exemple démocratique du Ghana, parce que si certains pays africains comptent beaucoup moins que ça, alors Dieu seul sait combien de ministres ou fonctionnaires fantômes comptent certains de ces États du fait de l'érosion de la gouvernance, parce que ici en Afrique, le phénomène redouté et que nous rejetons catégoriquement, c'est le cumul de postes qu'il est très facile de retrouver dans plusieurs gouvernements africains. Vous avez à la fois, soit du premier ministre au dernier ministre, qui est à la fois ministre, qui est maire, qui est député, qui est directeur de cabinet. Alors, ce cumul de postes-là, il faut arriver à faire face à ce que cela crée comme désolation, comme déception au sein de la population. Et puis, quand vous prenez aussi ces États qui vont dans des processus démocratiques de façon regroupée, alors quand ils viennent au pouvoir, par exemple, c'est le cas un peu au Sénégal où le président Macky Sall est venu au pouvoir à travers une coalition qui a fait partie de l'ancien président. Alors, la promesse de 20 ou combien de ministres
25.
Là, final, parce que
mais ce n'est pas...
un peu comme...
Les postes ministériels ne sont pas les seuls à pourvoir pour les alliés. Il y a d'autres, ils peuvent être utiles ailleurs. Vous êtes d'accord avec moi, non?
Tout à fait.
Ils ne sont pas obligés d'être ministres.
Utiles ailleurs, mais il y a aussi cette imposition, si j'ose dire, de ceux qui forment cette coalition. Chacun exige de sa part ce qu'il veut comme sa part du gâteau, oubliant carrément les préoccupations du peuple. Moi, je dis que attendons ce gouvernement au Ghana au pied du mur pour mieux l'apprécier, pourvu que les attentes du peuple ghanéen soient au centre des préoccupations de ce gouvernement et qu'il soit à la hauteur de sa taille aussi.
Et quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une polémique similaire? Parce que au-delà de 25 ministres, souvent, on pense que c'est beaucoup. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez connu ce débat?
Alors moi, je pense que ce qui est déplorable ici en Côte d'Ivoire, c'est un peu les scandales qui éclaboussent certains des ministres qui, malgré tout, continuent d'exercer en toute impunité, si j'ose dire. Parce que quand vous prenez, par exemple, les remous sociaux qui ont mis à l'index les dysfonctionnements carrément inacceptables de certains ministres à leurs fonctions et qui, malgré tout, continuent d'exercer dans ce gouvernement-là, qui prône l'émergence, qui prône le changement, qui prône la rupture, ça pose un véritable problème de ce qui se dit et l'envie de ce qui se fait sur le terrain. Et malheureusement, le peuple est pris à ce piège-là du jeu du chat et de la souris. Alors on fait des promesses qu'on n'arrive pas à tenir. Le peuple est condamné à subir tout ce que décide ce carré de personnes-là et c'est vraiment dommage.
D'accord. Restez avec nous, Youssouf. Le temps de lire aussi quelques réactions de nos auditeurs sur Facebook. Alphonse Mbouaki, en République démocratique du Congo, nous dit que le ministre de l'Information du Ghana dit que ses nominations consistent à soutenir le président dans les nombreux problèmes du pays. Ce ministère a toujours joué un rôle de propagande, selon lui, comme c'est le cas avec... Il donne le cas de son pays. Il pense que ces ministères de communication en Afrique sont plutôt jouent des rôles de propagandistes. Donc merci à Alphonse pour son opinion. Nous avons Christian Djerabé qui lui dit que la corruption, la malgouvernance qui handicape un État et non le nombre de ses ministres. Chaque pays a sa manière de gouverner et de nommer ses ministres pourvu qu'ils répondent aux besoins de leur peuple. Alors, on revient à Yaoundé avec notre invitée, Mme Viviane Biwole. On a quand même des auditeurs qui essayent de défendre, disons, la décision du président ghanéen de nommer un gouvernement pléthorique.
Alors, moi, je voudrais dire sur cette hypothèse, en temps, vouloir faire un procès d'intention. Mm-hmm. Mais la question qu'on pourrait également se poser, est-ce qu'on a réfléchi au-delà du portail et des charges qui sont très souvent déjà arrêtées et qui accompagnent la fonction ministérielle? Est-ce qu'on a proposé, on a également posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont rapporter? Est-ce que ce qu'ils vont rapporter comme valeur ajoutée peut tout aussi être quantifié pour qu'à la fin, lorsqu'on fait une addition simple, qu'on se rassure effectivement qu'ils auront une valeur ajoutée. Si on peut répondre à cette question par oui, je dis que c'est un nouvel modèle économique, une innovation de gouvernance que le Ghana va impulser, peut-être qu'il pourra inspirer d'autres pays. Mais ce qu'il faut quand même dire, moi je ne sais pas s'il faut créer une planète à part pour les pays africains. Je pense que toutes les raisons qui voudraient utiliser cette liberté, cette souveraineté qui est reconnue à différents États de pouvoir prendre des décisions pour résoudre leurs problèmes, ces différentes décisions s'inscrivent également dans un environnement et dans un espace qui n'est pas totalement isolé. On ne peut pas en même temps vouloir le développement, vouloir la démocratie, vouloir un minimum de croissance et à l'opposé, mener un ensemble d'actions qui pourraient certainement, et je le dis avec malheureusement beaucoup d'affirmations, qui amèneraient à réduire justement et à anéantir tous les efforts qu'un pays ou qu'une population peut mener pendant une certaine période. Je pense
qu'il
y a quand même matière à réflexion.
Vous qui dirigez une école de management public, comment est-ce que c'est souvent des sujets que vous abordez avec les étudiants, la question de la gestion des ressources publiques, des maigres ressources publiques dans nos pays?
Tout à fait. C'est une question qui n'a aucun du management public, parce que vous savez que l'une des spécificités de cette discipline, c'est l'implication et la forte présence, je n'ai pas envie de dire ingérence pour rester positif, du politique dans l'économie. Bon, avec cette présence, on ne peut ne pas questionner le modèle économique de l'État. Il vous souvient également que ce débat n'est pas un débat nouveau.
Hein, absolument.
Le Ghana, il n'a peut-être pas le même, parce que je crois que le chiffre sans dépasser la barre de 100, c'est quand même un record. Je pense que c'est pour cela que ça fait autant de polémiques, mais c'est un débat qui est ouvert. Au Cameroun, nous avons des membres du gouvernement, je crois que nous en avons 65.
Une soixantaine, oui.
Une soixantaine avec Francis qui un portefeuille. Et lorsqu'on voit la configuration de ces différents ministères, on a souvent l'impression que, pas seulement nous, hein, même parfois les titulaires de ce poste, sont souvent conscients de ce qu'ils sont parfois à des postes stratégiques et pour d'autres peut-être à des postes moins stratégiques, c'est souvent visible à travers un ensemble de considérations. Et la préoccupation que nous avons au plan du management, c'est de dire qu'il faut poser, il faut retenir un modèle économique. Quand je prends l'exemple du Rwanda, je le prends parce que je le suis un peu. Et la première question à laquelle le Rwanda a répondu, c'est de savoir quel est le modèle économique qu'on met en place. Ils ont pris le modèle britannique. Pour eux, c'était clair. Si nous prenons ce modèle, il y a des conséquences que nous devons absolument assumer. Et je pense que parfois, on est engagé au niveau des intentions, des déclarations, et peut-être même de bonne foi, hein, je ne voudrais pas les soupçonner, mais un ensemble d'idéal. Mais au moment de mettre en œuvre, on est très vite rattrapé par l'environnement, très vite rattrapé également par... Le sien à tout point de vue, la famille, les amis politiques, et une fois qu'on est engrillé là-dedans, il est difficile de faire autrement. Je pense que la population qui constitue un contrepoint rappelle à travers ces différentes manifestations, rappelle qu'il faudrait quand même observer un minimum de cohérence. Et moi, je pense que c'est davantage ce jeu entre l'implication citoyenne de la population et les décisions des politiciens, c'est ce jeu-là qui pourrait nous permettre de sortir justement de...
D'accord. D'accord, on va rapidement aller à N'Djamena retrouver un auditeur, Archidic. Archidic, bonsoir.
Bonsoir à la voix de l'Amérique et bonsoir à tout le monde.
D'accord. Vous dites que le nombre pléthorique de ministres au sein d'un gouvernement ronge les caisses de l'État. Surtout si on prend l'exemple de, disons, du Ghana, qui a une dette de plus de 30 milliards de dollars.
Effectivement. J'ai été toujours contre le nombre pléthorique de ministres dans un pays où la pauvreté côtoie les richesses. Certains ministères, pour moi, pourraient même jumeler aussi, en jumelant ça, on peut seulement faire une séparation certaine entre les départements. Mais sans 10 ministres, pour moi, c'est vraiment pléthorique et également, on a d'autres choses à faire, on n'a pas seulement besoin d'avoir seulement pléthorique parce que certains ministères, apparemment, c'est même si on parle de ministère de géologie, après on dit, mais on parle de ressources halieutiques. Donc pour moi, c'est devenu un cercle banni où les gens ont l'intention seulement de se rapprocher, de s'appeler juste pour manger. On arrive à avoir avec la résolution concrète des problèmes dont vous êtes tous les années. Par exemple, au Stade, on a aussi un nombre de spécialistes, alors que les pays traversent absolument une crise financière très grave. Donc, c'est comme si les gens n'ont pas réfléchi et c'est une table où on s'invite sans savoir ce qui est exactement sur cette table-là.
D'accord, merci beaucoup Archiduc depuis N'Djamena. J'aurais bien aimé retourner à Yamoussoukro, mais nous n'avons plus de temps. Nous allons donner quelques secondes à notre invité depuis Yaoundé, Madame Viviane Biolé, pour peut-être conclure. Alors, qu'est-ce que vous retenez un peu, disons, en échangeant un peu avec les auditeurs?
Ce que je retiens en échangeant avec les auditeurs, bon, je n'ai pas fait de statistiques précises, mais je retiens que certains restent très flexibles et surtout très compréhensifs hein, par rapport à ce type de décision. Je peux les comprendre. Et ce que je comprends également, c'est que dans la rationalité qu'ils disent, hein, en fonction de leurs différentes postures, on peut analyser la situation différemment.
D'accord. Donc c'est un sujet à suivre. Vous pouvez poursuivre la discussion sur notre page Facebook. Au revoir.